L'Éternel est mon berger. Vous avez une idée d'où cette phrase est tirée dans la Bible? Probablement du psaume le plus connu, c'est le psaume 23. Et nous avons commencé dimanche dernier, en première partie, une lecture dans ce psaume, et nous allons poursuivre aujourd'hui avec la deuxième. Donc pour les personnes qui viennent assister à notre culte, soyez encore une fois les bienvenus aussi ceux et celles qui sont joints à nous. Nous avons l'habitude de lire le texte biblique ensemble et j'ai trois tableaux qui vont être affichés et je vous invite l'un à l'autre de nous lire à haute voix un tableau. Il y en a trois en total, on peut donc changer et trois personnes peuvent faire la lecture pour nous tous. Qui va commencer?
L'Éternel est mon berger, je n'ai pas besoin de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages. Il me dirige près de nos pétrifères. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Il reste une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête, tu fais déborder ma vie.
Ça t'arrive. Oups.
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie.
Merci. L'Éternel est mon berger. La première chose que nous avons vue dimanche dernier, c'est que si l'Éternel est le bon berger de tout un troupeau de brebis, de toute son église comme image, ce berger a quand même, à côté de cette relation collective, une relation tout à fait personnelle avec chacun de ses brebis. Chacune des brebis peut appeler donc l'Éternel mon berger, comme s'il n'y avait pas d'autre, comme si elle était toute seule. Et chacun des brebis a un tel prix aux yeux du berger, ce qui montre Jésus, qui dit dans une parabole en Luc chapitre 15, même si une brebis se perdait, il laisserait pour un moment les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue. Tellement il y a un prix important à ses yeux pour chacun d'elles. Le bon berger connaît chacun de ses brebis par son nom. Et il dit en Jean chapitre 10, c'est la raison par laquelle elles me suivent, parce que je les appelle par leur nom, ils me connaissent. Le berger connaît aussi le caractère et l'état de chacune. Il sait de quoi chacune a besoin. Puisque l'Éternel est mon berger, dit le psaume, alors, et c'est une conséquence, je ne manquerai de rien. Le bon berger restaure aussi mon âme. Nous avons vu la dernière fois qu'une âme restaurée est une âme, une personnalité reconstruite, une personne guérie. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous dans notre personnalité le produit de notre vécu. Plus notre vécu a été difficile, plus que notre vécu a été douloureux, plus notre personnalité et notre âme sont abîmées. Le but suprême, en tant que bon berger de nos âmes, n'est pas seulement de pouvoir, pour nos besoins extérieurs, dit le bon berger, dont nous avons besoin. Il veut en plus restaurer notre âme et nous donner d'être les personnes qu'il veut que nous soyons. Voilà aujourd'hui la suite du psaume. D'ailleurs, la première partie, vous le trouverez sur le site de notre église. La Bible dit dans le psaume, le bon berger conduit dans les sentiers de la justice, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'autre effet à la conduite de l'Éternel, le bon berger de nos âmes, pour ceux qui le suivent, et que celles-ci sont menées dans les sentiers qui sont appelés justes. Ce sont les sentiers de la justice. Bon, on a tellement l'habitude de prendre des chemins parallèles, mais nous sommes appelés à marcher, d'être conduits sur les sentiers de la justice. Il se peut qu'en suivant l'Éternel, nous espérions marcher sur la voie du plaisir. Toujours du plaisir. Toujours, si c'était possible, plus riche. Travailler plus. Bon, vous connaissez la suite. Marcher avec le Seigneur, nous avons tellement espéré de connaître que le bonheur, que la santé. Nous espérons connaître que la réussite ou la satisfaction personnelle et surtout immédiate. Immédiate. La marque première, dit David, l'auteur de ce psaume, n'est pas simplement tout cela, mais c'est surtout de mener une vie juste et poursuivre son chemin dans la vie qui est appelé le sentier de la justice. Car la justice, c'est ce qui colle le mieux avec la personnalité du bon berger. L'Éternel, il est juste. C'est pas étonnant que le chemin sur lequel il voudrait te conduire, c'est le sentier de la justice. Or, contrairement aux voies larges et faciles, la justice dans laquelle l'Éternel veut que nous marchions se présente sous la forme d'un sentier. Un sentier, vous savez, c'est un chemin plutôt étroit qui exige de nous à la fois vigilance et attention parce qu'il faut savoir où mettre ses pieds pour pouvoir suivre. Jésus, en Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, il utilise cette image avec ses paroles à lui. « Rentrez donc dans la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux est le chemin, mais qui mène à la perdition. Vous allez marcher facile, mais vous allez vous perdre. » La traduction du Nouveau Testament en parole vivante dit « Là où l'homme sera irrémédiablement perdu. » Quelqu'un est intéressé par cela? Non? Personne? Donc vous êtes des gens normaux. Personne veut se perdre sur le chemin de sa vie, parce que nous n'avons qu'une seule sur terre. Donc mieux c'est trouver notre chemin et arriver à notre destinée. Et puis, il dit, mais beaucoup de personnes choisissent plutôt la facilité qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte, continue Jésus, resserrer le chemin menant à la vie, il y en a peu qui s'y trouvent. On ne marche pas avec Dieu comme on ne marche dans le monde. Vous avez certainement remarqué que le modèle d'une vie chrétienne ne correspond pas du tout aux plusieurs modèles qui nous sont proposés dans ce monde. Il faut que vous le sachiez que l'expression « je fais ce que je veux » ou « je ne fais que ce que je veux » est incompatible à la vie chrétienne, avec une marche sérieuse dans notre vie conduite par l'Éternel, notre bon berger. « Nous étions tous errants, dit le prophète Isaïe, chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun faisait ce qui lui semble bon. » Je crois que c'est une belle photo de notre temps où c'est finalement toi seul qui décide en tant qu'individu, pour toi seul, ce qui est bon et juste. Les amis, ayant l'Éternel comme bon berger de nos âmes, ce style de vie, désormais, est définitivement fini. Voici mon conseil, dit l'apôtre Paul aux nouveaux chrétiens de Galates. Chapitre 6, les versets 15 à 18. Marchez par l'esprit et vous accomplirez plus les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont même opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Et vous dites, objection. Objection. Il n'y a plus d'objection. Choisis bien la personne que tu voudrais suivre et suis-la. Si tu choisis l'Éternel comme le bon berger, mais tu vas rester sur le chemin sur lequel il te conduit, parce que c'est un chemin juste. Tu ne feras plus ce que tu voudras, ni en privé, ni en cachette, parce que tu te laisses conduire dans la lumière du Saint-Esprit. Laissez-vous conduire, conclut l'apôtre, laissez-vous conclure par l'Esprit de Dieu. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans ma vie, j'essaye d'éviter certains chemins, surtout ceux qui sont pénibles et qui sont difficiles. Et vous savez, j'arrive pas. J'ai l'impression même que ces chemins s'imposent à ma vie et apparaissent toujours quand j'ai pas envie ni besoin. D'ailleurs, j'ai ni envie ni besoin de telles situations. Elles font tout simplement partie de notre vie. Et la vallée de l'ombre de la mort fait partie aussi du chemin du chrétien. Un autre bénéfice très appréciable dont jouit celui ou celle qui a l'Éternel pour berger est la sécurité qu'on expérimente dans les moments où, au cours de notre pèlerinage sur cette terre, nous devons passer par les lieux ou des endroits dans lesquels, en plus livrés à nous-mêmes, ils ne pourraient être que saisis par l'éprouvante. Je ne sais pas, est-ce que vous avez dans votre souvenir, peut-être même des images qui vous passent devant vos yeux, où vous dites, voilà des situations dont je me rappelle, et comment c'était... non pas seulement pénible, mais à quel point j'étais moi-même angoissé. Les angoisses profondes, ou la dépression, ou même la mort, sont pour chacun de nous des passages obscurs, effrayants pour nos âmes. Ce sont des passages où la lumière divine que nous avons connue jusqu'à là, qui jusqu'alors éclairait notre chemin, devient soudain insuffisante, et qui peut même arriver que cette lumière commence à disparaître ou disparaît complètement. Et tu cries « Lumière ! Que la lumière soit !» Mais la lumière ne revient pas. Le chemin est obscur et nous nous trouvons dans les ténèbres les plus profondes. Nous devons plonger dans ces moments-là dans l'obscurité. Je me rappelle qu'en tant qu'enfant, j'avais peur du noir. Pas quand j'étais au lit. Là, les périmètres, c'était connu. Une grosse couverture pouvait être tirée par-dessus de la tête. Et voilà. Ma chambre était sous le toit et mon père, pour gagner un peu de place, il a mis des armoires juste dans l'angle là où le toit touche le plafond de la maison. Et il y avait une toute petite porte et on pouvait rentrer dans un espace qui était grand, je sais pas. 80 centimètres sur, je sais pas, même pas un mètre. Et deux fois, il m'est arrivé, quand je parcourais à gauche, à droite, parce qu'il y avait des choses à découvrir que mon père, mon grand-père y a mis, la porte était fermée. C'était ma sœur. Et j'étais dans le noir total. Et même si tu sais, le mur est là, là, là et là, donc je me trouve dans les dimensions que je ressens, ok ? Et je sais aussi que, voilà, ça fait que peu pour arriver à la porte, mais toutes les dimensions se perdent dans le noir. Et peut-être vous avez vécu vous-même une perte totale du contrôle de l'espace de votre vie. Parce que il n'y avait plus rien à voir. C'était que obscurité. Privés de lumière et d'orientation, nous allons apprendre que malgré tout, et malgré nous, malgré que nous ne voyons plus le bon berger, malgré que nous ressentions plus sa présence, ça n'empêche pas d'être tout près de chacun de nous. Si ce n'est pas davantage dans ces moments-là. Il y a une histoire que je trouve très touchante. C'est une histoire imaginée. Mais peut-être, à des moments de votre vie, vous l'avez vécu vous-même. Le matin, au petit-déj, Imke et moi, nous sommes confortablement installés. Le café est chaud, ben aussi. Et très souvent, je commence à lui raconter mes rêves. Parce que je rêve dans la nuit. Ça vous arrive aussi? Quand je serai mort, hein, j'aurai vécu deux vies. Une vie où j'étais réveillé, une autre vie complète quand j'ai dormi. Voilà. Donc le matin, je me rappelle de mes rêves. Et c'est toujours action et tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui rêve, qui fait un rêve dans un moment où il passe un passage extrêmement difficile dans sa vie. Et dans son rêve, il voit la mer, il voit la plage. Mieux que dans les rêves que viennent les belles images, n'est-ce pas? Hein, à la place des cauchemars, hein, les belles images sont à préférer. Voilà. Et donc sur cette plage, cette personne voit deux traces de pieds dans le sable, comme s'il y avait deux personnes qui marchent l'une à côté de l'autre, comme dans une promenade au bord de la mer. Et cette personne qui rêve est convaincue que, voilà, ce sont ses traces à elle et les traces de Jésus qui l'accompagnent. Parce que cette personne avait l'habitude d'être accompagnée, d'être conduite par le bon berger. Et puis arrive un moment sur cette plage où une trace disparaît. C'était la trace, une seule trace qui poursuit. Et à ce moment-là, cette personne qui rêve dit « Ah oui, Seigneur, je me rappelle !» C'était les difficultés que j'ai dû subir, que je devais rencontrer. Et effectivement, dans ces moments, j'avais l'impression que tu avais disparu. Je marchais tout seul dans le sable. Et à combien c'était difficile. Seigneur, où étais-tu? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu m'as laissé continuer tout seul? Vous avez déjà posé toutes tes questions? Dans une prière, peut-être? Dans une crie profond de votre âme, pourquoi tu m'as abandonné? D'ailleurs, une cri que le Seigneur lui-même a exprimé juste avant sa mort. Pourquoi tu m'as abandonné? Et puis, dans ce rêve, il y a une douce voix qui s'adresse à cette personne qui rêve. Et lui dit, je t'ai pas abandonné. Mais si, Seigneur, il n'y a qu'une seule trace qui continue dans le sable. Et le Seigneur dit, regarde bien les empreintes que cette trace dans le sable laisse. Est-ce que cette trace, ces empreintes ne sont pas plus profondes que tous les autres? Et effectivement, ces empreintes sont plus profondes dans le sable. Et Jésus dit, voilà, à ce moment-là, j'étais porté. C'est la raison pourquoi tu ne vois qu'une seule trace. Parce que dans ces moments-là, j'étais porté dans mes bras. Donc, ce n'est pas étonnant que tu ne vois qu'une seule trace. Même si nous ne le voyons pas, même si nous ne voyons plus le Seigneur, l'Éternel, notre berger, lui est toujours là, aussi près de nous, si ce n'était pas plus encore. La ressource habituelle de la lumière mise de côté, le Seigneur a à sa disposition deux outils par lesquels il va nous guider, par lesquels il peut continuer à nous guider, guider ses brebis, déboussolées souvent dans l'obscurité la plus profonde. Le premier outil, c'est sa houlette. Le deuxième outil, c'est un bâton. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Mais finalement, il y en a deux. Quels sont-ils et qu'est-ce que représentent-ils? La houlette et le bâton sont dans la main du berger des instruments disciplinaires. Désagréables, il faut vraiment le dire, désagréables en apparence, lorsqu'on les voit en pleine lumière. Ils se transforment, par contre, en outils rassurants dans notre nuit la plus profonde. Remarquons l'ordre dans lequel David cite les deux instruments utilisés ici par Dieu, la houlette et le bâton. Ils servent de guidage. En plein jour, mais surtout dans la nuit. Parce que la houlette et le bâton, tu le ressens, même si tu ne vois plus. Tu les ressens au moment où tu ne vois plus le Seigneur. Et tu sais que la houlette est dans la main du Seigneur, dont le berger ne peut pas être loin, n'est-ce pas? Et c'est là le côté sécurisant. Par eux, la brebis peut ne plus voir le berger, mais par ses instruments, le berger saura garder le contact avec ses brebis, la menant sur le chemin obscur. Quels que soient les moments d'obscurité que nous devons traverser, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. C'est même l'apôtre Paul qui essaie de l'expliquer aux Grecs à Athènes, en Actes chapitre 17, verset 27. Dieu n'est jamais loin de chacun de nous. Même dans la nuit la plus noire, le berger de nos âmes saura nous faire ressentir, saura nous rassurer au fond de notre âme qu'il est toujours là. On passe à une image beaucoup plus agréable, même si c'est agréable de se savoir guider, même dans l'obscurité. C'est « Tu dresses devant moi une table ». La table est, dans le langage biblique, souvent symbole de la communion. On vient de prendre la Sainte Cène et on s'est rappelé la table autour de laquelle était assis Jésus avec ses disciples. C'est autour de la table que se retrouvent aussi les amis, dans la chaleur conviviale, dans une atmosphère empreinte de détente et de partage. Il manque que le barbecue. À l'opposé de la table empreinte détente et de partage, David la situe, cette table, pas dans un endroit agréablement et facile. Il situe cette table dressée face aux adversaires. Ce ne sont pas des personnes que j'inviterais à ma table. Des personnes méchantes, non. Des amis, oui. N'est-ce pas? Bon, chacun a ses critères de choisir les personnes qu'il veut inviter à sa table. Mais les personnes méchantes, normalement, à part si la famille est réunie, on ne peut pas exclure tout le monde. Les adversités dans notre vie existent bel et bien. Personne n'aime être confronté à cela. Leurs intentions sont clairement malveillantes. Mais face à eux, pour montrer la parfaite sécurité dans laquelle se trouvent ces brebis, le bon berger ne fait rien de mieux que dresser une table là. Mise à part dans la Bible, on la trouve, cette image, que dans Astérix. N'est-ce pas? Et on trouve cette image où? Dans les bandes dessinées d'Astérix. Mais à la fin, n'est-ce pas? Quand les méchants ont été vaincus, hein? Quand l'aventure dangereuse a connu une heureuse fin. En tout cas, pas pour le troubadour. Nul autre moment que celui de la scène que prit le Seigneur avec ses disciples dans la chambre haute, peu avant sa mort, n'illustre mieux la réalité décrite ici par David. Alors que tout autour, la nuit n'était que menace, la nuit n'était que conspiration, la nuit n'était que complot. La chambre haute, éclairée par la lumière douce, était le lieu tranquille, illuminé, intime, avec la proximité du bon berger. Peu de temps après, le bon berger allait être frappé, mais aucune de ses brebis périssait. Voici ce que Jésus dit à ses disciples assis autour de la table en priant le Père, en Jean chapitre 17, verset 12. « Lorsque j'étais avec vous dans le monde, je les gardais en ton nom, Seigneur. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition. » Et là, il parle de Judas, qui s'est lui-même exclu par sa trahison. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous atteste. La table de communion que le Seigneur a dressée pour les siens, table autour de laquelle nous rappelons le prix qu'il a payé pour notre salut, en prenant la scène, est finalement le lieu de notre salut. Le lieu de notre salut, lieu aussi de notre victoire sur les adversités que peut connaître notre vie, sur nos ennemis. Et puis, il continue à dire, « Tu verses de l'huile, ma tête. » Donc ce matin, j'ai vu Benjamin. Donc parfois j'ai les gestes un peu câlins. Donc je le fais comme ça, sur la tête. Oh, il n'a pas aimé ça. Parce que c'était sa coiffure, hein, qui était collée avec de l'eau. Hein. Voilà. Mais c'est à la mode, hein. Tu mets du gel ou autre chose. Bon, tu verses de l'huile, ma tête. À quoi pensez-vous quand vous entendez, quand vous lisez cette phrase? Donc, je voudrais vous inviter à ce qu'un berger explique en interprétant ce psaume. Et c'est le berger Philippe Keller, dans son livre « Un berger contemple le bon berger de ses brebis ». Un bon berger contemple le bon berger et ses brebis. Et il dit « Tout comme la houlette et le bâton, l'onction d'huile sur la tête des brebis par le berger était une nécessité pour leur bien-être. Jusqu'alors, j'ai suivi. En effet, mis à part des grands prédateurs, une sorte d'animaux plus difficiles à combattre était source de tourments journaliers pendant certaines périodes de l'année. Et c'était les mouches. Ah oui? Aussi, pour protéger ces brebis, pour empêcher leurs agresseurs de pondre leurs œufs dans leurs naseaux, le berger préparait une composition à base d'huile dont il enduisait ensuite tout le corps, mais particulièrement la tête et le nez. Délivrés de leurs assaillants par l'efficacité de l'onction, les brebis retrouvaient le repos de leurs âmes. Ils pouvaient être tranquilles dans leurs préoccupations. Comme les brebis, les croyants peuvent aussi être, à certains moments dans leur vie, fortement tourmentés, harcelés même dans leurs âmes, par des agresseurs extérieurs. Le harcèlement à ce sujet peut être si fort que la vie du croyant devient une sorte d'enfer. Quelle mouche m'a piqué, n'est-ce pas? Voilà. Il ne trouve alors ni endroit, ni instant où il peut se jouir du repos, incapable qu'il peut se contrôler tellement il essaie de se débarrasser de son petit ennemi, dont il ne peut pas se débarrasser lui-même de ce fléau. Et la Bible avait averti de la réalité de ce combat. Donc, ici, imaginez combat spirituel, pas contre les mouches, quoique nous avons affaire, dit Jésus, à un adversaire à qui il a donné le nom Bézébuth. Bézébuth. Jésus dit, c'est un autre nom qu'on donne au diable. Mais littéralement, c'est le Seigneur des mouches. Prince du mal et prince des démons. Matthieu chapitre 9, 34 et chapitre 12, verset 24. Nous avons affaire au malin qui constamment lâche des traits enflammés en direction de chacun et chacune qui appartient à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Et contre ces attaques, tous nos efforts et toute notre gesticulation humaine sont complètement inutiles. Pourquoi? Ça revient. Ça revient constamment. Ça ne se laisse même pas impressionner. Une seule solution s'avère efficace. L'onction de nos cœurs. L'onction de nos esprits par l'esprit du bon berger, de l'Éternel. Et elle nous est donnée chaque fois que, vaincus, nous confessons notre propre incapacité de combattre tout seul l'ennemi de nos âmes. Le bon berger nous donne, pour le dire un peu léger peut-être, par son Saint-Esprit, la puissance qui se trouve en lui, un produit anti-mouche. Je vais continuer par le dernier point. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Le psaume 23 se termine exactement comme il a commencé. Est-ce que quelqu'un se rappelle du début? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cool. N'est-ce pas? Que bonheur! Que paix et bonheur! Affirmant d'entrée que parce que l'Éternel est son berger, il ne manquerait de rien, dit David. David, après avoir fait le tour de tous les bienfaits dont il est objet, conclut en disant que sa coupe déborde même. Nous étions, c'était quel jour que nous étions au musée des Beaux-Arts? Jeudi, voilà. Jeudi, Imke et moi, on a voulu voir le nouveau musée des arts à Nantes. Et on a dit, bon, on va prendre un petit restaurant au Fou du Roi, derrière le château, à recommander. Et puis, aller au musée. Et on était installés. Un couple un peu plus âgé, même un peu beaucoup plus âgé que nous, s'assoit juste à côté de nous. Et voilà, nous entamons une petite conversation. Et voilà, il s'avère qu'ils revenaient du musée et ils voulaient finir leur séjour à Nantes par un restaurant. Et ce monsieur-là, il a demandé comme apéritif... comment ça s'appelle, Marseillais, là? Un pastis, voilà, un pastis. Mais sans glaçon. Et vous savez, il s'est laissé servir le verre, haut, avec le pastis sans glaçon. Et vous savez pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison? Il voulait voir s'ils sont exactement 0,2 centilitres qui étaient versés. Hein? Et pas moi. Il disait, s'il y avait un glaçon dedans, on ne connaîtrait pas la bonne mesure. Connaître la bonne mesure. Jésus, il verse dans ma coupe. Il ne regarde pas le petit trait. Hein? Oh oui, on peut encore un peu. Oh non, c'était trop. Non, généreusement, il verse jusqu'à ce que ça déborde. Abondance, bonheur, grâce quotidienne. Ça, on pourrait en dire dans l'expérience de David du fait que l'Éternel est son berger. Donc, les propos de David rejoignent à la perfection les promesses par lesquelles je voudrais finir, faites par Jésus, le Fils de Dieu, notre bon berger, à tous ceux et celles qui sont devenus ses brebis. Jésus dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie qu'elle est en l'abondance, pas à la juste mesure. » Ça serait trop juste, mais en abondance. Et en Jean chapitre 15, verset 11, il ajoute, « Pour que leur joie puisse être parfaite. » En dessous, Dieu ne fait rien. Incapable de verser moi. La conclusion du psalmiste l'atteste donc, de tous les bergers que les hommes pouvaient connaître et suivre, il n'y a personne de meilleur que le bon berger, l'Éternel. Est-ce que tu as confié ta vie à ce bon berger? Est-ce que tu lui fais encore confiance aujourd'hui? Est-ce que tu ressens sa présence dans les moments difficiles de ta vie? Est-ce que la joie et le bonheur reviennent au moment où le Seigneur te conduit de nouveau dans la lumière quand le passage difficile est fini? Est-ce que tu connais cette communion avec lui? Si aujourd'hui tu dis « pas vraiment » ou « pas encore » ou « je me suis perdu » et j'aime bien être retrouvé. Donc je t'invite à ce que tu restes après le culte, qu'on prie ensemble et qu'on retrouve ensemble le bon berger et le bon chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen.